Economica, Anne Isla.
Jacques Lavergne, bonjour.
Economica, ou comment rendre accessible à tous les faits et les idées économiques.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Économie. Et sur Esprit Économie, vous voyez, sur Esprit Occitanie, mais on va parler d'économie dont déjà ma langue fourche. Allez, on commence toujours par une citation qui va un peu illustrer ce qui va suivre. Ouvrez les guillemets, il n'y a guère à douter qu'un jour le grand champ de bataille sera la propriété et que les grandes questions politiques auront trait à des modifications plus ou moins profondes apportées aux droits des propriétaires. Fermez les guillemets et c'est d'Alexis de Tocqueville qu'on aurait bien intérêt à relire par les temps qui courent. Et je pense que quand je vous parlerai du livre que j'ai choisi tout à l'heure, je reviendrai peut-être un tout petit peu sur Tocqueville. Alors aujourd'hui, le thème du jour, le thème central que va traiter Anne, ce sont les actionnaires. Et la grande question, sont-ils ou non propriétaires des entreprises ? Mais avant que nous rentrions dans ce morceau de résistance, quelques brèves, qui ne sont pas toujours d'ailleurs. La première, elle est dans le Novetic que vous pouvez consulter sur Internet et sous la signature de Marina Fabre-Soudron qui nous parle des démissions et de ce qu'on appelle, c'est horrible comme mot, le détravail. Et 20%, ce serait la hausse des démissions entre juillet 2019 et juillet 2021 en France. Alors ce sont des chiffres publiés par la DARES, qui est la Direction de l'Animation de la Recherche et des Études et des statistiques, donc la DARES, 20% de démissions. Alors si on est loin du phénomène américain, pardon, excusez l'accent, baptisé Be Quit ou Great Resignation, je crois qu'il faut le prononcer comme ça, la vague qui atteint lourdement les États-Unis déferle aussi sur l'Hexagone. Même tendance pour les ruptures anticipées de CDD qui ont cru de 25 ans en 2 ans. La France, c'est une citation, enregistre une croissance record des taux de démission, indique dans une note plusieurs enseignants-chercheurs à l'école, l'EM, c'est l'école en Normandie, c'est l'école normale peut-être, Normandie, je ne sais pas. 80% des démissions seraient liées à un épuisement professionnel et un manque de soutien managérial. Le professeur de ressources humaines, de gestion de ressources humaines, Vincent Meyer, nous dit le véritable défi est de repenser les modèles managériaux donnant plus de temps et d'autonomie aux collaborateurs pour permettre des relations humaines plus authentiques au travail. Il s'agit donc de trouver du sens à son travail et avec la pandémie de Covid-19, le changement climatique, le terrorisme, la guerre en Ukraine, toutes sortes de préoccupations qui font que la centralité du travail est plus que jamais remise en cause. Une étude commandée par le collectif et publiée le 28 mars par Harris Interactive indique ainsi que 2 jeunes sur 3 se disent prêts à renoncer à postuler dans une entreprise qui ne prendrait pas suffisamment en compte les enjeux environnementaux. Et une revendication qui est aussi bien portée par les actifs les plus aisés que par les actifs, entre guillemets, populaires. Ça vous surprend, Anne ?
Non, ça ne me surprend pas. Il est temps qu'on réfléchisse aux conditions de travail et à pourquoi. Pourquoi on travaille ? Et si on pouvait imaginer que le moment du travail, ce soit un moment agréable et un moment gratifiant ? Si on faisait participer aussi les travailleurs à l'organisation de leur travail, si on leur demandait leur avis, ce serait peut-être judicieux, me semble-t-il. Et c'est vrai que c'est grave, ces démissions en cascade, en particulier dans le monde de l'éducation et de la santé.
Oui, médical. J'ai entendu parler de certaines cliniques de Toulouse qui ont dû fermer des blocs parce qu'il n'y avait pas les infirmières de bloc suffisamment compétentes. Alors vous allez me répondre, vous n'aurez pas tort. Peut-être que si on les payait un peu plus, on aurait quelques volontaires qui se présenteraient, mais apparemment ce n'est pas le cas.
Peut-être si on les payait un peu plus et si on leur procurait des conditions de travail un peu plus agréables.
Voilà, toujours un vœu pieux. Ça fait longtemps qu'on répète les mêmes choses. Hein. Oui. On a l'impression de radoter parce que rien ne bouge, rien n'avance. Et c'est un peu C'est un peu dépitant par moments. Alors, deuxième brève, une grande tarte à la crème. Est-ce que les immigrés menacent vraiment les finances publiques? Alors, si on regarde ce que nous disent certains candidats dans la campagne électorale, on se rend compte que c'est le fer de lance de leur programme. Et The Conversation a publié l'interview du professeur d'économie, un de vos collègues, Anne Lionel Ragot, qui est conseiller scientifique au CEPII, donc CEP2I, et professeur d'économie à l'université de Paris-Nanterre surtout. Alors, que nous dit-il? Eh bien, il nous dit qu'il faut véritablement souligner que les flux d'émigrés en France sont à proportion de sa population résidente, et donc parmi, il faut le souligner, les plus faibles des pays développés. Nous avons un taux d'immigration de 0,4% en 2018, et notre pays accueille proportionnellement deux fois moins d'immigrés que l'Allemagne, et même trois fois moins que la Suède. On est donc loin de ces flux massifs, incontrôlés, dont on nous menace et qui déferleraient chaque année sur le territoire français, attirés qu'ils sont par un niveau de vie plus élevé, et puis cette fameuse protection sociale très généreuse que la Terre nous envie. Et donc, il s'avère, si on étudie cette population immigrée, si on étudie ce qu'elle vient faire chez nous, comment elle vit, comment elle se développe, il s'avère que cette population immigrée, comme celle des natifs, des Français de souche, a connu une amélioration des niveaux de qualification au cours des 40 dernières années. Et donc, avec une baisse tout à fait significative du poids des faiblement qualifiés, donc diplôme inférieur au baccalauréat, et un accroissement du poids des moyennement et hautement qualifiés, au point que la part de ceux-ci, ces fameux hautement qualifiés, alors on est hautement qualifié quand on a un diplôme supérieur ou égal à Bac plus 3, parmi les immigrés, c'est 21,7% en 2020, et qui est légèrement supérieure à celle des natifs, qui ne s'élève que à 20,1%, ce qui veut dire quand même que tous ces immigrés, ben, ils se sont bien, si je puis dire, acclimatés, pour ne pas dire autre chose. Ils ont travaillé et ils ont eu des résultats. Et la dernière étude sur les données françaises met en évidence une contribution nette des immigrés sur le budget entre 1979 et 2011, certes d'ampleur très faible, mais qui est comprise en une fourchette de plus ou moins 0,5% du PIB. Ce qui veut dire que durant toute cette période, l'émigration en France n'a jamais déterminé l'ampleur et l'évolution du solde budgétaire primaire, bien sûr. Et il faut noter que cette neutralité budgétaire des immigrés n'est pas spécifique à la France, parce que ça peut se retrouver chez tous les pays de l'OCDE. Donc les immigrés ne nous pompent pas la substance, ne nous font pas les poches, comme diraient certains. Ils ne coûtent pas d'argent et ils nous en rapportent un peu.
Oui, ils ne coûtent pas d'argent, ils en rapportent un peu. Ils en rapportent et ils ne votent pas, en plus. Mais oui. Bon, ça c'est un autre débat. Et puis non seulement ils ne coûtent rien, au contraire, ils apportent de l'argent à la France, ils contribuent à l'augmentation du PIB, mais ils amènent aussi une autre façon de voir le monde. Ils amènent du nouveau, ils amènent des choses.
Et puis ils amènent peut-être ce que les Allemands recherchaient, Mme Merkel, à une certaine époque, c'est-à-dire les retraites, le paiement des cotisations retraite avec des populations vieillissantes. On a quand même besoin d'un peu de sang neuf. Et apparemment, si on ne compte que sur nos propres forces, ça va être un peu juste. En tout cas, pour les Allemands, qui est un pays vieillissant, il était urgent d'avoir des jeunes qui viennent un peu abonder les budgets des caisses de retraite.
Et c'est sûr que pour traverser la Méditerranée, on le fait à 20 ans, à 25 ans. On ne le fait pas quand on est âgé.
Voilà,
et même et c'est un âge où on est en bonne santé, en plus.
Oui, nage, c'est le cas de le dire, puisque il nage beaucoup, certains n'arrivent pas d'ailleurs. Et troisième brève, alors quelque chose qui m'a surpris à la lecture, ce sont les violences sexistes qui se portent bien. Donc, France Inter a fait un très bon reportage là-dessus. Il faut croire que ces mouvements, vous savez, MeToo, Balance ton porc, qui à une époque ont été très actifs, on les entend peut-être un peu moins maintenant, n'ont pas suffi. Puisque 4 ans après la libération de la parole, les violences sexuelles et sexistes sont encore largement répandues dans les entreprises. Alors il y a un cabinet qui s'appelle Équilibre, qui est spécialisé dans les risques psychosociaux et qui a publié toute une étude sur le sujet. Et le constat est malheureusement sans appel. Rien que l'année dernière, 6 salariés sur 10, excusez du peu, ont été confrontés à des agissements à connotation sexiste ou sexuelle au travail. Le pire, c'est que 18% des femmes interrogées disent que ça augmente. Donc on ne va pas véritablement dans le bon sens. Moi je pensais qu'on était quand même, on était devenu un peu civilisé. Bien non, dans la majorité des cas, il s'agit de ce que leurs auteurs qualifient de blagues, paraît-il, entre guillemets. Mais il faut aussi compter sur les remarques déplacées, sur le physique, les propos obscènes, voire carrément les propositions sexuelles. Mais tout cela a des conséquences réelles sur les victimes. L'initiative Stop au sexisme ordinaire rappelle que être le sujet de tels propos se traduit par une baisse de la confiance en soi et note que certaines entreprises sont plus en retard que d'autres. Et vous savez, Anne, quel est le plus mauvais élève dans toute entreprise ? Malheureusement, c'est celui qui pourrait peut-être donner l'exemple, c'est le service public. Plus d'un quart des fonctionnaires se plaignent, par exemple, de regards insistants, de sifflements, de gestes grossiers. C'est aussi intéressant de noter qu'on n'est plus dans ce vieux cliché du patron graveleux. Il doit encore en rester, mais bon, tout ça était peut-être un peu dépassé, puisque en grande majorité, ces violences sexuelles et sexistes proviennent d'un collègue, et dans les deux tiers des cas, d'un homme. Bon, ça encore, on pouvait l'imaginer. Donc nous ne nous corrigeons pas, et il semblerait même que nous régressions.
Oui, et si cela ne vous a pas surpris, c'est peut-être parce que vous êtes un homme.
Oui, je suis un homme, et puis je suis peut-être un peu trop optimiste sur, finalement, l'évolution, l'élévation intellectuelle de mes concitoyens. Il semblerait que les vieux réflexes perdurent.
Les vieux réflexes perdurent, et en période de crise, ça aide pas.
Oui, ça vient se rajouter à tout le reste. Bien. Passé ces brèves, eh bien, on va rentrer dans le dur du sujet et vous allez nous parler, Anne, de ces actionnaires qui alors sont ou pas propriétaires des entreprises. C'est ce que vous allez nous expliquer, nous révéler.
Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler des entreprises qui ont de l'actionnariat, c'est-à-dire des grandes entreprises. Je ne parlerai pas des micro-entreprises, des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire des entreprises qui, selon la définition de l'INSEE, occupent moins de 250 personnes et qui ont un chiffre d'affaires qui n'excède pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Donc je parlerai de ces très grosses entreprises. Il y en a à peu près 260 en France sur 3,9 millions d'entreprises hors système agricole et financier. Donc à peu près 257 ou 260 entreprises qui embauchent l'équivalent de 26% du travail équivalent temps plein et qui participent à 31% de la valeur ajoutée. Donc je vous parlerai de ces grandes entreprises qui ont des actionnaires.
Qui ont des actionnaires, les autres aussi ont d'ailleurs des actionnaires, mais l'actionnariat est plus facilement identifiable. Les petites, enfin, on ne va pas parler de petites, hein, mais celles qui font le grand tronc des entreprises, ce sont souvent d'ailleurs des familles qui les possèdent directement ou des chefs d'entreprise qui ont clairement la majorité. On ne se pose pas la question de savoir ce que font ou comment votent les actionnaires ou s'ils ont quelques leviers sur la maison puisqu'ils sont en prise directe, si je puis dire.
Oui, ce sont les micro-entreprises. Hein. C'est vrai que c'est une grosse partie des entreprises en France hein, puisque c'est 2,4 millions de salariés. C'est micro-entreprises, c'est 20% de la valeur ajoutée. Mais c'est vrai que là, dans ce cas-là, comme ce sont des micro-entreprises, la question de qui est propriétaire et que donne comme pouvoir la propriété ne se pose pas.
Alors, ces actionnaires, gens que l'on ne voit jamais, que l'on ne connaît pas, des femmes et des hommes de l'ombre, et on a tendance à penser que ce sont les propriétaires, pas les patrons, hein, au moins pas opérationnels, mais in fine les propriétaires dans l'entreprise. Alors, vrai ou faux ?
Non.
Bon, voilà.
Faux, les actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise et ne l'ont jamais été. Il n'y a jamais eu de propriétaire de l'entreprise pour la simple raison qu'on ne peut pas être propriétaire d'une entreprise, c'est-à-dire d'une personne morale en droit. Et pourtant, on le dit sans arrêt, c'est un peu agaçant d'ailleurs, on parle des propriétaires de l'entreprise lorsque l'on parle des actionnaires. Alors il y a un auteur qui, au milieu du XXe siècle, Karl Polanyi, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La grande transformation », qui a développé un concept de marchandise fictive hein, pour parler de la terre, du travail, qui ne sont pas véritablement des marchandises, mais qu'on considère comme des marchandises, eh bien aujourd'hui, c'est aussi le cas des entreprises qui sont devenues des marchandises, des objets liquides, donc des marchandises fictives, et des objets liquides, des marchandises qui s'achètent et qui se vendent sur les marchés boursiers. C'est une financiarisation de l'entreprise, puisqu'on transforme l'entreprise en marchandise boursière, en marchandise financière, et c'est une financiarisation à laquelle on a abouti au fur et à mesure des années, à partir des années 70, 80, et ça s'est ensuite tout le temps accentué avec des lois particulières comme la loi en 1990, qui a autorisé la pratique du rachat d'actions aux États-Unis, et puis ensuite qui va être autorisé en Europe et en France. Donc cette façon de voir l'entreprise comme un objet dont on peut être propriétaire, c'est-à-dire une marchandise, cette financiarisation de l'entreprise va aussi transformer son projet, son objet, hein, entreprise, ça vient du mot entreprendre, donc il y a un projet derrière, et bien ce projet, il va être réduit, il va se réduire, oui, comme peau de chagrin, et se fixer sur la rentabilité financière de l'entreprise. Donc l'entreprise, vue par cette économie néolibérale, cette économie dominante, et bien c'est un agent rationnel qui maximise son profit et ses son principal objet.
Oui, mais cette maximisation du profit, elle profite à qui ? Elle profite aux actionnaires, lesquels sont toujours plus gourmands, on l'a vu. Donc si l'entreprise travaille uniquement pour ses actionnaires, c'est que quelque part quand même, alors on ne va pas dire qu'ils en sont propriétaires, mais ils en sont un peu les maîtres.
Oui, ils en sont devenus les maîtres, tout à fait. Hein. Aujourd'hui, le fonctionnement de l'entreprise est soumis aux décisions des grands actionnaires. Alors, cette façon de voir l'entreprise, elle a démarré notamment par un article d'un économiste qui s'appelle Milton Friedman, qui a été
bien connu,
prix Nobel de la Banque de Suède dans les années 70, et qui a écrit un article en 1970, en septembre 1970, dans le New York Times, un article qui est assez connu, sous le titre « La responsabilité sociale des entreprises est d'augmenter le profit ». Je vous le fais directement en français. Hein. Donc, si les actionnaires confient leurs fonds à des entreprises à but lucratif, dit Friedman, et non à des associations caritatives, c'est qu'ils cherchent à faire du profit. Et ce n'est pas au chef d'entreprise, au manager ou au salarié, en décider autrement. Alors, j'ai envie de vous citer un extrait de cet article. Alors, c'est vrai que c'est un peu long, mais
éclairant.
Ça résume parfaitement. Oui, c'est très éclairant, ça résume cette vision de l'économie.
Alors, Milton,
il dit, dans un système de libre entreprise et de propriété privée, un dirigeant d'entreprise est un employé des propriétaires de l'entreprise. Il est directement responsable devant ses employeurs. Cette responsabilité est de conduire l'entreprise selon leurs désirs qui, en général, doivent être de gagner autant d'argent que possible tout en se conformant aux règles de base de la société. L'élément clé est que, en sa qualité de dirigeant d'entreprise, le gestionnaire est le mandataire des personnes qui sont propriétaires de la société ou qui établissent l'institution de charité, et sa responsabilité principale est envers eux. Le principe politique qui sous-tend le mécanisme de marché est l'unanimité. Dans un marché libre idéal, reposant sur la propriété privée, aucun individu ne peut avoir d'action coercitive sur aucun autre. Toute coopération est volontaire. Toutes les parties d'une telle coopération en tirent avantage, ou alors elles n'ont pas besoin de participer. Il n'y a pas de valeur, pas de responsabilité sociale, autre que les valeurs et les responsabilités partagées par les individus. La société est une collection d'individus et de groupes que ces individus forment volontairement. C'est pourquoi, dans mon livre, dit Friedman, « Capitalisme et liberté », un livre qu'il a rédigé en 1962, ma théorie dit toujours Friedman, qualifié de doctrine fondamentalement subversive dans une société libre, affirme que dans une telle société, il y a une et une seule responsabilité sociétale de l'entreprise, utiliser ses ressources et s'engager dans des activités visant à augmenter ses profits tant qu'elle respecte les règles du jeu, c'est-à-dire qu'elle s'engage dans une concurrence ouverte et libre, sans tromperie ni fraude. Donc vous voyez, dans cet article, là, Friedman répète sans arrêt qu'il y a des propriétaires d'entreprises et il résume ce que va être, à partir des années 70, la vision dominante que l'on va développer au sein des grandes entreprises.
Et c'est plus qu'une vision, c'est quand même une réalité. On dit toujours qui paye commande. C'est quand même un peu le cas, non ?
Ah, qui paye commande, c'est le cas, oui, mais une entreprise, ce n'est pas que du capital. Capital tout seul, ça ne fonctionne pas. Du travail tout seul, ça ne fonctionne pas non plus. Il faut les deux.
Il faut voir comment tout ça, effectivement, peut se coordonner et aboutir à un résultat. Avant de continuer, on a fait une première pause musicale, mais c'est vous qui l'avez choisi. Alors, je vous laisse la présenter.
Alors, j'ai choisi une... je ne sais plus où je l'ai noté. Chanson de Souchon,
voilà.
Sur l'actionnariat et sur les parachutes dorés.
Ça s'appelle ? Ah, c'est une colle.
C'est une colle, je ne m'en rappelle plus, j'ai un trou.
Alors, je vais vous souffler pour vous dire ce que vous avez choisi. Ça s'appelle Parachute
ah,
dorée.
Ah oui, Parachute dorée.
Alain Souchon,
ça.
On l'écoute.
Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant synco. À moi le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco. À moi les alizés, les vents tropicaux. Et moi sur le bateau. Adieu les traders, adieu jogging, les briefings à l'heure, breakling, ouvriers, riez. Adieu les blouses grises en Chine, l'usine, on délocalise les coûts, on dégringole les banques, on peut rigoler. La boîte à coller, mes pouces, on va se la couler. Les douces, la pilule, on va se la dorer. J'ai le parachute, je suis doré. Adieu mégaphone, adieu calico. Adieu représentants syndicaux. À moi le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco. Adieu château Pétrus, encore stall en vin. Adieu les jolies putrus dans les mystères. Balancez les fraiseuses, les machines-outils, riez, ouvriez du joli gâchis. J'ai creusé, creusé, j'ai creusé la dette, au lieu de me creuser la tête. Un jour, les cours ont chuté et moi, parachuté, la boîte a coulé, mes pouces. On va se la couler, les douces, la pilule, on va se la dorer. J'ai le parachute, je suis doré. Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant syndicaux. Moi le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco. adieu téléphone, adieu le bureau, secrétaire au talon haut. À moi, les alizés, les vents tropicaux, et moi, bien frisé, sur le bateau, la boîte a coulé, mes pouces en vase à coups, les douces, la pilule, on va se la dorer, j'ai le parachute.
Voilà, Alain Souchon, Parachute Doré, le choix de ma camarade de radio, Anisla. Donc vous êtes bien sur Esprit Occitanie et l'émission Economica où nous parlons aujourd'hui des actionnaires et du poids qu'ils ont dans la société. Et nous nous posons la question de savoir s'ils sont ou non les patrons. Vous venez de nous citer longuement Milton Friedman qui a très bien résumé ce qui est la position de l'économie dominante d'aujourd'hui. Et à travers cet article de Friedman qui date déjà de 62, hein, je crois, c'est ça.
70.
Il n'a pas pris finalement une ride, semble-t-il. Et il souligne quand même un certain nombre de points essentiels à l'appui de sa démonstration.
Oui, non seulement il n'a pas pris de ride, mais il était relativement novateur en 1970 et au contraire, il va être mis en œuvre. En fait, les idées qui sont exprimées dans cet article vont être de plus en plus mises en œuvre dans l'économie réelle. Alors, quels sont les points essentiels? Qu'est-ce que dit Friedman? Il dit, eh bien, dans une économie normale, entre guillemets, hein, dans une économie de propriété privée, les agents économiques sont libres et égaux. Donc, si vous prenez une entreprise qui a des actionnaires, des dirigeants et des salariés, chacun est libre ou non de participer à cette entreprise. Ils le font de leur plein gré. Il n'y a pas de pouvoir les uns sur les autres.
C'est un point de vue de l'esprit. Ils le font de leur plein gré. Il y en a qui, oui, ils sont à l'insu de leur plein gré quand même. Il faut avoir le choix. Quand on dit on fait quelque chose de bon plein gré, il faut avoir la liberté. Or, la liberté, certains ne l'ont pas. Les rapports sont un peu biaisés.
Bien sûr, dans la réalité, les rapports sont biaisés. Mais dans ce monde idéal vers lequel il faut aller, il faut imaginer que dans l'entreprise, eh bien, il n'y a pas de pouvoir. Chacun participe parce qu'il a envie de participer à l'entreprise. Alors, il y avait deux autres auteurs dans les années 70 aussi, Armen Alchian et Harold Demsett, qui vont dire... un salarié, il a autant le choix de travailler dans une entreprise ou de ne pas y travailler qu'un client a le choix d'aller dans son épicerie ou de ne pas y aller. C'est du même type. C'est l'exemple qu'ils prennent dans leurs travaux.
Oui, ça fait que ça parie quand même assez décalé par rapport à la réalité, non?
Oui, bien sûr, c'est complètement décalé par rapport à la réalité, mais il n'empêche que c'est à partir de cette vision-là qu'on va mettre en place des règles managériales, des façons d'organiser l'entreprise, d'orienter l'entreprise, en considérant donc qu'il n'y a pas de contrôle autoritaire. Donc il y a trois types, si vous voulez, d'agents dans l'entreprise, des actionnaires qui apportent le capital, des salariés qui apportent du travail et des dirigeants qui doivent organiser donc cette équipe, hein, c'est aussi le terme qu'ils utilisent, toute cette équipe pour pouvoir produire.
Moyennant quoi ils toucheront le fameux parachute doré qu'Alain Souchon vient de nous chanter.
Voilà, moyennant quoi ils toucheront le parachute doré. Alors bien sûr... Toujours, hein, je parle dans la vision de l'économie dominante, ces différents individus, ces différents agents économiques, ils ont des intérêts divergents. Quel est l'intérêt de l'actionnaire? Eh bien, c'est que la valeur de l'action augmente. Quel est l'intérêt du salarié? Eh bien, c'est d'avoir le meilleur salaire pour travailler le moins possible, parce qu'on suppose aussi que les individus sont opportunistes. Et quel est l'intérêt du dirigeant? C'est le même que le salarié, hein, c'est d'avoir le meilleur salaire, le meilleur parachute doré, et de travailler le moins possible. Alors quel est...
Peut-être plus pour le salarié que pour le dirigeant.
Plus pour le salarié que pour le dirigeant.
Travailler moins possible, mais...
Oui, mais tout de même avoir le meilleur salaire possible. Alors le problème, c'est que ces intérêts, ils peuvent être divergents, et donc les économistes vont réfléchir à quel est l'intérêt qui doit être mis en avant, quel est l'intérêt qui doit être mis en avant, et ensuite quelles sont les règles, quelles sont les incitations qu'on va mettre en place dans l'entreprise pour suivre cet intérêt qui doit être mis en avant parce que c'est l'intérêt naturel. Hein. Vous savez, les économistes dominants aiment bien parler de lois naturelles, de règles naturelles, hein, parce que ce serait l'intérêt naturel de l'entreprise. Eh bien, ils vont dire l'intérêt naturel de l'entreprise, dont Friedman le dit déjà, c'est de faire le maximum de profit. Or, quand on regarde le prix d'une action, disent ces économistes, eh bien, il reflète la valeur fondamentale de l'entreprise, c'est-à-dire si l'entreprise fait du profit, maximise son profit. Ça, c'est le pape de l'équilibre des marchés financiers, comme l'appelait André Orléans, c'est Eugène Fama hein, qui va dire ça, qui va développer ça et qui va avoir tout de même le prix de la Banque de Suède en 2013, hein, en pleine. On est encore dans la crise des subprimes, et qui va donc prôner l'équilibre des marchés financiers et dire les marchés financiers, c'est-à-dire quand je parle des entreprises, les actions des entreprises reflètent la valeur des entreprises, donc elles reflètent si elles font ou non le maximum de profit.
Donc le seul critère, c'est l'argent, c'est le résultat, la dernière ligne du bilan, celle d'en bas. Mais bon, alors ces entreprises sont des agents économiques majeurs. Certaines ont des chiffres d'affaires plus élevés que des budgets d'État moyens ou petits. Hein, si on prend Jeff Bezos ou consorts, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ça veut dire qu'ils ne sont là que pour faire de l'argent et qu'ils n'auraient aucune responsabilité sociale, responsabilité éthique, morale, on pourrait ajouter environnementale. Et c'est une question qui est tout à fait d'actualité, parce que regardez la guerre, l'Ukraine, la Russie, on dit à certaines entreprises, ben, soyez un peu plus moraux et dégagez-vous, arrêtez de faire de l'argent. C'est ce qu'on reproche un peu à Total aujourd'hui. Fermez vos usines en Russie parce que la continuité de cette activité n'est absolument pas éthique. Est-ce que dans ce cadre-là, l'éthique n'a rien à voir, si je vous ai bien suivi depuis le début ?
Non, l'éthique n'a rien à voir parce que ça, pour ces auteurs, ça ne relève pas de l'économie. Ça relève pas de... Parce que, si vous voulez, en économie, on ne fait pas de morale ou on est hors de la morale. On ne fait pas d'éthique, etc.
On vit dans un certain milieu. Qu'il y a une interaction de l'entreprise qui n'est pas une entité évanescente. Non, non, elle est plongée dans un milieu social, politique, géopolitique, etc. Donc nécessairement, elle a une influence en dehors de l'argent qu'elle est là pour produire, mais elle a aussi un autre rôle. Elle influe sur d'autres paramètres.
Mais je suis d'accord avec vous qu'elle influe sur d'autres paramètres, qu'elle est complètement encastrée dans l'économie et que je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce que je voulais montrer là, c'est la vision des économistes libéraux. Et eux vont dire, quand on raisonne en économie, on désencastre. On ne réfléchit pas aux pourtours politiques et sociaux.
C'est pareil, on se met hors sol. Il y a un certain nombre de paramètres qui vont s'imposer à l'entreprise, à la marge de l'entreprise, à son fonctionnement. Et l'entreprise, elle n'est pas déconnectée de la réalité. Alors théoriquement, ça, on comprend bien ce qu'ils veulent dire. Mais il y a tout l'environnement qui influe à tout niveau sur l'entreprise.
Oui, tout l'environnement va jouer. Et donc, c'est au rôle du politique, c'est au rôle des institutions de mettre en place les règles nécessaires pour que les entreprises aient un comportement moral, est un comportement éthique, etc. Mais ce n'est pas au manager de l'entreprise de mettre en première ligne de mire ce genre de comportement. Alors bien sûr, le manager va pouvoir se dire, en suivant les actionnaires, hein, pour valoriser mon entreprise, eh bien, il vaut mieux que j'ai un comportement éthique, que j'ai un comportement qui corresponde à la protection de la planète, etc., etc. Mais ça, il le fait pas parce
qu'il est bon et beau, parce que l'image, finalement, oui. Une belle image va maximiser son profit.
Oui, et parce que du coup, ça va lui rapporter. C'est cette vision-là qu'on va développer.
Ce qu'on appelle la carotte qu'on met devant l'âne pour le faire avancer, oui. C'est ça ?
C'est
plus
ça.
Simplement.
Alors, c'est vrai que... Mais ça serait alors l'objet d'une autre émission radio, pourquoi pas, hein ?
Mais nous en ferons plein.
On va en faire plein, mais on pourrait aussi parler de comment on pourrait concevoir une entreprise qui participe pleinement à la société. Donc, une entreprise comme un objet politique. Hein ? Parce qu'on peut aussi considérer, au lieu de dire l'entreprise, c'est... c'est quelque chose qu'on va étudier hors sol, comme vous dites, hein, hors sol, en considérant uniquement sa maximisation du profit, etc. Eh bien, au contraire, on va aborder l'entreprise comme un objet politique, c'est-à-dire comme quelque chose qui participe à la société pleinement. À la société
c'est,
avec
c'est un objet politique dans la mesure où certaines entreprises influent sur nos civilisations. Un point important, et j'y reviendrai tout à l'heure dans mon conseil entre guillemets culturel, elles peuvent avoir un poids très lourd sur la société.
Mais elles ont un poids très lourd dans la société. Et c'est ce qui est malheureux, c'est quand on va mettre en place des règles de management qui correspondent à une vision erronée de l'économie, qui selon moi est erronée de l'économie, ou qui se trompe. D'ailleurs, votre réaction, ça le montre bien, que cette vision de l'économie se trompe. Quand on dit la seule responsabilité de l'entreprise, c'est de faire du profit, et donc ce sont les actionnaires qui portent cet objectif, hein, puisque cet objectif, il apparaît dans la valorisation actionnariale. Et donc, quand on va dire, à partir des années 80, hein, trouvons un système d'incitation qui permette d'aligner les intérêts de tout le monde, de tous les gens qui participent à l'entreprise, sur l'intérêt de l'actionnaire. Donc, quand on va mettre des incitations du type stock option, hein, par exemple, on va donc transformer notamment les dirigeants en actionnaires, comme ça, ils vont porter l'intérêt des actionnaires. Quand les salariés aussi, on va en partie faire participer donc de l'actionnariat dans leurs revenus, mais quand on va aussi essayer d'évaluer exactement ce qu'ils apportent à la production. Alors, je ne sais pas, essayer de, par exemple, dans une équipe de foot, d'évaluer exactement qui est le responsable de celui qui met le but. Bien sûr, il y a celui qui tire, mais il y a aussi tous les autres qui participent.
Mais toute une chaîne.
Toute une chaîne, et c'est un peu pareil. Hein. Une entreprise, c'est un peu ou comme on pourrait dire, je ne sais pas moi, un orchestre, hein, donc vous avez tous les musiciens qui participent, et quel est l'apport du violoniste par rapport à l'alto, etc. Donc là, on va faire de cette façon-là, on va mesurer, on va tenter, de mesurer exactement la part de chaque salarié dans la production, dans la productivité, et on va adapter les salaires à cette part que l'on a mesurée. Et on va atteindre à des niveaux qui sont extrêmement graves. Il y a un mal-être au travail qui est extrêmement important. C'est ce dont on parlait au début de l'émission dans vos brèves. Donc ces entreprises, elles vont avoir un impact extrêmement important. Et cette façon de voir l'actionnariat comme quelque chose qui prime dans l'entreprise et qui est la seule chose qui compte en quelque sorte et sur laquelle tout le monde doit s'adapter, eh bien, ça va façonner l'entreprise et ça va avoir des impacts extrêmement importants dans notre société.
Est-ce qu'on n'est pas un peu court-termiste en réagissant comme ça ? On parlait hors antenne tout à l'heure, pendant la pause musicale, on parlait du PDG de Nestlé qui avait des conceptions tout à fait ouvertes et intéressantes, mais qui s'est fait débarquer à la hussarde parce que l'actionnariat n'en a pas voulu. Ce qu'il veut, c'est son dividende à la fin d'année maximisé, et c'est une vue à très court terme.
C'est une vue à très court terme. Et vous savez, dans une des émissions précédentes, on a parlé, au contraire, de Ford, hein, qui, lui, avait réussi à s'imposer. Mais on n'était pas à la même époque. On était au début du XXe siècle, alors qu'aujourd'hui, on est au début du XXIe siècle. Et la vision de l'entreprise, elle s'est complètement déformée, hein, sur ce laps de temps. Alors, c'est une vue à court terme, certes, mais voilà, c'est la position tout de même que l'on va adopter, faire le maximum de valorisation boursière en un minimum de temps. Et si l'entreprise doit y passer, eh bien...
Oui, parce que ça peut être destructeur pour l'entreprise. On presse le citron, on fait cracher, mais au bout d'un moment, l'outil même s'épuise et, oui. et ne renouvelle pas ses ressources humaines, ne renouvelle pas ses matériels, ne renouvelle pas ses marchés. On la jette sur le bas-côté et puis on va certainement acheter des actions d'une autre.
Voilà,
on fait sa plus-value et on passe à une autre.
On la presse comme un citron et on passe comme une autre.
Alors, je ne sais pas si l'économie doit être morale, ça ce serait notre débat, mais là, pour l'instant, ça, ce n'est pas très séduisant comme projet de société quand même.
Non, ce n'est pas très séduisant, c'est pour ça aussi qu'il s'agit de le dénoncer, de montrer qu'on a vraiment été au bout de cette vision-là et qu'on est arrivé à une situation où cet actionnariat qui a tout le pouvoir au sein des entreprises, alors que pour fonctionner une entreprise comme un orchestre, hein, elle a besoin donc des musiciens, des travailleurs, elle a besoin du capital, des instruments, et elle a besoin d'un chef d'orchestre, c'est-à-dire des managers. On a besoin de ces trois catégories, au minimum, hein, bien sûr. Et ces trois catégories doivent être respectées au même niveau, doivent être perçues au même niveau. Si on continue dans cette vision de cette entreprise où l'actionnariat est primordial, où il faut faire de la valorisation en permanence, eh bien, on arrive à des crises que l'on rencontre en permanence, on arrive à ces démissions terribles, on arrive aussi à des phénomènes de suicide qu'il y a eu dans certaines entreprises, etc. On arrive dans des situations extrêmement compliquées. Alors que, non seulement, cette vision, elle est court-termiste, mais en plus, elle est infondée. Elle est infondée parce que les actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Hein, ça, juridiquement,
mais ils sont en copropriété.
Alors, soit on dit ils sont en copropriété, soit on dit eh bien, il va falloir s'habituer à raisonner hors du concept de propriété. Ça, c'est vrai que les économistes dominants ont du mal. Donc, il va falloir réfléchir à une entreprise inappropriable.
Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs finalités et plusieurs rôles de l'entreprise. Donc on va beaucoup plus loin que la maximisation des profits. On dit qu'elle doit avoir un rôle dans la société, un rôle éthique. Elle doit traiter ces différentes composantes qui font ce tout et qui permettent d'aboutir au profit. On doit les traiter peut-être avec beaucoup plus de respect et les incorporer un peu plus dans la marche de l'entreprise, dans la décision, c'est ça ? Un peu ce que font les Allemands qui ont développé depuis très longtemps
la codétermination. Oui. On va réfléchir à une autre façon de concevoir l'entreprise. On va dire, certes, il y a du travail, donc il y a de l'amortissement du travail, mais il y a aussi l'amortissement du capital. Et puis, il y a aussi l'amortissement, j'ai envie de dire, de la planète ou de l'environnement. On peut raisonner aussi en termes de coûts. Si on dit que le travail est un coût, alors il faut aussi dire que le capital est un coût. Alors il faut aussi dire que l'impact sur la planète, c'est un coût. Donc il va falloir réfléchir de façon beaucoup plus globale. Une entreprise, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et les projets qu'elle a, ce n'est pas que la valorisation actionnariale. C'est aussi déjà produire des biens et des services de qualité, faire en sorte que les salariés progressent et s'épanouissent par leur travail. C'est aussi ça le projet de l'entreprise, et c'est bien sûr verser aussi des dividendes aux actionnaires, je ne l'exclus pas, mais on peut les mettre au même niveau que les autres partenaires, que les autres parties constituantes, on pourrait dire, de l'entreprise.
C'est un changement de paradigme tout à fait fondamental.
Un changement de paradigme fondamental, mais qui commence à se développer de plus en plus. Vous allez me dire, la situation est urgente. Par exemple, il y a eu un économiste qui s'appelle Olivier Favreau, qui a rédigé un rapport pour l'Organisation internationale du travail en 2018, qui fait le point sur la situation actuelle des entreprises et qui propose une autre vision pour organiser les entreprises et qui donc va proposer de raisonner en termes d'entreprises inappropriables dont on ne peut pas être le propriétaire. Donc on va mettre en place, pour lui, un système de codétermination, certes, mais aussi il va falloir prendre en compte le fait que les capitalistes et les salariés, ils ont un point commun, ce sont des êtres humains qu'ils vivent sur une planète, et que cette planète, il va falloir la maintenir.
Alors ça existe déjà, non ? Ça s'appelle une coopérative ?
Ah oui, mais dans la coopérative, il n'y a pas forcément...
L'économie sociale et solidaire ?
Oui, mais dans la coopérative, d'une part, on va dire, ce sont les salariés qui sont propriétaires, alors que là, on fait un pas supplémentaire, on dit, il n'y a pas de propriétaire du tout, ni les actionnaires dans la grande entreprise, ni les salariés dans les coopératives. On fait un pas supplémentaire, donc on est dans un objet dont personne ne peut être propriétaire, ni les travailleurs, ni les actionnaires ni les dirigeants, mais auxquels ces trois catégories participent, constituent l'entreprise. Et donc, il va falloir réfléchir à des conseils d'administration où les salariés soient plus présents, à des conseils où on va réfléchir à l'organisation du travail et les salariés sont peut-être les mieux placés pour savoir ou pour au moins donner des idées sur l'organisation pertinente du travail, où on va avoir des conseils qui vont aussi réfléchir à l'impact environnemental de l'entreprise, donc sur l'environnement, le climat, etc.
Vaste programme, comme disait un certain.
Vaste programme, et comme je vous le disais, qui commence donc à être réfléchi et élaboré. Et donc, Olivier Favoreau a fait ce rapport, et en parallèle, Christophe Clerc, je crois que c'est Christophe son prénom, un juriste, a fait aussi un rapport en tant que juriste à l'Organisation internationale du travail pour aller dans ce sens. Et juste, je voulais dire, c'est les juristes, quand ils ont... quand on a développé ces sociétés par action, enfin quand on les a développées, quand on a permis la création des premières sociétés par action, principalement au XVIIIe siècle, on se méfiait déjà de la dérive vers laquelle ils pouvaient aller.
On avait raison, on y est en plein.
Et ils avaient raison. Et à l'époque, quand on voulait donc créer une compagnie, donc qui disposait de la personnalité morale, c'était un acte qui était nécessairement royal et qui n'était accordé que si la compagnie poursuivait un but d'intérêt public. Donc il fallait prouver qu'on avait un intérêt public que l'on poursuivait et que pour cela il fallait beaucoup de capitaux et donc on avait besoin de la personnalité morale, donc par exemple le commerce maritime, la banque, etc. Et en 1807, donc au tout début du 19e siècle, la possibilité de créer des sociétés par action, où la responsabilité donc est limitée à la valeur des actions, nécessite d'obtenir une autorisation qui est longue, qui est coûteuse, ça prend 2 ans. Donc vous voyez, au début, ces autorisations, elles étaient exceptionnelles, hein, parce qu'on se méfiait un peu des dérives des sociétés par action. Et puis par la suite, par contre, ça s'est largement développé.
Est-ce votre conclusion sur ce point ?
Oui, on pourrait conclure sur ça. De toute façon, on pourra en reparler.
Oui, il faudra y revenir parce que le sujet est peut-être... il est passionnant parce que finalement, c'est l'organisation de notre société et un de ses agents qui est en train un peu de peut-être de déraper et de tomber dans l'individualisme. Parce que c'est ça, les agents privés sont de plus en plus individualistes, mais les entreprises aussi.
Oui, les entreprises aussi. Mais en même temps, c'est aussi... L'entreprise, c'est aussi peut-être un moyen pour penser autrement l'économie, pour penser autrement l'organisation économique. C'est peut-être par là qu'il va falloir passer.
Alors pour y réfléchir, on va faire une deuxième pause musicale. On va écouter Aragon, chanté par Marc Augeret, Un jour.
Tout ce que l'homme fut de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux, à Grenade aujourd'hui surgit devant le crime, et cette bouche absente et l'orca qui s'est tue, emplissant tout à coup l'univers de silence contre les violents. Tourne la violence, Dieu le fracas que fait un poète qu'on tue. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange. Un jour de palme, un jour de feuillages au front. Un jour d'épaule nue, où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau, sur la plus haute branche. Âge désespéré de mes frères sauvages, je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante, et la pierre sur nous est le feu des soldats portés sur nos rivages. Quoi toujours ce serait, par atroce marché, un partage incessant que se font de la terre entre ces assassins que craignent les panthères et dont tremble un poignard quand leur main l'a touché. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange. Un jour de palmes, un jour de feuillages au front. Un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Quoi toujours ce serait, la guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés, et l'enfant de la femme inutilement né, les blés déchiquetés, toujours des sauterelles. Quoi les bagnes toujours, et la chair sous la roue, le massacre toujours, justifié d'idoles, aux cadavres jetés, ce manteau de paroles, le bâillon sur la bouche, et pour la main le clou. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange. Un jour de palmes, un jour de feuillages au front. Un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau, sur la plus haute branche.
Voilà, Aragon chanté par Marc Augeret qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, je pense, un jour, un jour. Nous en arrivons, parce que l'heure tourne très vite et votre discours était passionnant, on aurait pu en parler encore des heures, mais nous en reparlerons bien sûr parce que c'est un sujet qui mérite d'être débattu et poursuivi. Je vous propose de parler un peu de l'économie en Occitanie, un peu rapidement, quelques données. Alors, on se pense toujours vers la Banque de France qui a dévoilé le bilan économique de l'année 2021. On l'avait déjà un peu abordé, je crois. Et surtout, ses perspectives pour l'année 2022. Ils ont sondé, c'est leur job, des milliers de chefs d'entreprise. Et le directeur régional de l'institution, Stéphane Latouche, nous dit « L'économie française a une incroyable capacité de rebond, on est content, affiche une croissance vigoureuse, cela vaut également pour l'Occitanie. » Donc ça, c'est très bien. Mais quand on regarde un peu plus près, la croissance du PIB en 2021 sur l'Hexagone était de 7%. La Banque de France envisage une croissance de 3,6% en 2022, mais comme le dit le directeur régional, et je le recite, l'économie d'Occitanie, tout comme l'économie nationale, affiche une bonne résistance face aux variants en micron ce début d'année. L'impact n'est pas nul, mais très léger. Alors, il est quand même optimiste, Stéphane Latouche, mais il est lucide sur la santé de l'économie en Occitanie quand il nous dit « La région est un cran en dessous de ce rebond économique. » Parce que selon les données de la Banque de France, le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie régionale est aujourd'hui évalué à 76%, alors qu'au niveau global, au niveau national en France, il est de 80%. Contre 84% avant la crise sanitaire. Donc on a un différentiel de 8 points qui s'explique, vous l'avez peut-être deviné, certainement d'ailleurs, par la situation de l'industrie aéronautique qui tourne aujourd'hui à 66% de ses capacités dans notre bonne ville de Toulouse et des environs. Or, ce secteur est quand même très présent sur le territoire. C'est pour cette raison que la région serait quand même économiquement un peu un cran en dessous de ce qui se fait au niveau national. Voilà pour la situation d'Occitanie qui n'est pas catastrophique, loin s'en faut, et où il y a quand même beaucoup d'atouts. Le tout, c'est de savoir les jouer, les atouts. Il faut les jouer au bon moment et comme il faut. Dernière rubrique, Anne, le conseil entre guillemets culturel, lecture, film, expo, mag,
Oh ben moi, je suis restée dans l'économie.
Oui,
et dans le thème, je vous propose un ouvrage qui s'appelle « L'entreprise liquidée, la finance contre l'investissement » de trois jeunes économistes, Tristan Auvray, Thomas Daléry et Sandra Rigaud. Donc, il reprend l'évolution de la finance depuis 30 ans, cette finance qui est devenue toute puissance, puisqu'il n'y a pas un jour sans connaître les mouvements du CAC 40 ou du Nasdaq. Pas une semaine sans analyse du change, pas du rouble, notamment pas un mois sans fermeture d'usine, pas un an sans inquiétude sur la dette publique, pas une décennie sans une crise financière. Donc le bilan macroéconomique de nos économies occidentales est peu glorieux, une croissance certes qui reprend mais qui reste encore un peu faible, des investissements à tonnes, un chômage endémique, des inégalités croissantes. Donc le constat de cet ouvrage est sans appel, les politiques libérales ont déréglementé la finance et la banque qui accompagnait autrefois l'industrie dans ses investissements à long terme. Aujourd'hui la finance fait plutôt obstacle, on l'a vu tout à l'heure, la créativité des financiers s'est substituée à celle des entrepreneurs. Et donc pour cette nouvelle génération des économistes français, il est urgent de remettre la finance à sa place, c'est-à-dire au service de l'économie. Et l'économie à sa place, c'est-à-dire au service des êtres humains.
Ah, on aimerait que ce soit ça, quelques-uns l'appelaient de nos voeux, de plus en plus nombreux d'ailleurs, mais nous allons voir ce qui va se passer. Peut-être, il faut, je ne sais pas s'il faut être optimiste, mais en tout cas, il faut être combatif et combattant. Alors moi, je vais vous parler d'un autre livre, qui est un livre extrêmement éclairant, même un peu inquiétant quant à l'avenir, mais l'avenir, c'est nous qui allons dire ce qu'il sera. Pour autant, pardon, il faut avoir conscience des réalités. Alors ça s'appelle « Un pouvoir implacable et doux ». C'est sous-titré « La tech », donc sous-entendu la technologie, « La tech ou l'efficacité pour seule valeur », c'est chez Fayard. Et c'est de Philippe Delmas, qui a été un des dirigeants d'Airbus, d'Astrium, qui a travaillé au ministère des Affaires étrangères, comme on disait autrefois, et qui se préoccupait justement de ces questions. Alors le propos de Philippe Delmas est extrêmement riche. Encore une fois, c'est un livre qui mérite d'être lu, parce qu'il va nous entraîner, il va nous montrer ce que nous ne voyons pas, mais qui influe pour autant sur nos vies quotidiennes. Alors que nous dit-il ? Ben, il nous dit que la révolution industrielle a enrichi toute la population de nos pays, toutes les populations, et elle a entamé le développement des pays qui avaient besoin de se développer. Alors la tech, nous dit-il, crée une économie radicalement inégalitaire pour les personnes, les entreprises et les États. Pardon, et elle met le chat dans la gorge, c'est terrible. Et elle mine nos classes moyennes dont les revenus du travail stagnent depuis 15 ans. Et de son fait, les chances des pays pauvres de ne plus l'être ont baissé de moitié. Passer d'une situation où les vainqueurs s'enrichissent plus que les autres à un monde où les autres ne s'enrichissent plus du tout est un changement de nature et pas de degré. Effectivement, on est en train d'avoir une révolution que l'on ne maîtrise pas vraiment parce qu'on ne la voit pas arriver, on ne la perçoit pas, sauf si on analyse, si on réfléchit, si on lit, si on se frotte aux idées de certains comme celle de Philippe Delmas, lequel nous dit « La vraie menace de la tech n'est pas économique mais politique. Sa puissance inégalitaire met fin au pacte moral de la révolution industrielle, laquelle promettait l'amélioration de la vie pour tous. » On en est loin, vous l'avez vu. Dans le monde entier, le sujet n'est plus la démocratie, mais l'efficacité des gouvernants, devenu le seul critère de jugement des citoyens. Face à ce qui se passe avec la Chine, par exemple, et la Russie, qui essayent de dire « Mais attendez, laissez tomber votre modèle, le nôtre est bien meilleur », vous voyez qu'il y a du grain à moudre. Alors la puissance technique est pour les États une tentation de contrôle irrésistible. J'ai évoqué la Chine, on a vu comment ils l'utilisent. Les dirigeants y cèdent dans un développement sans fin de la surveillance de nos vies. Pour notre bien, soi-disant, peut-être plus pour le leur. La tech, la question est posée, serait-elle le despote puissant et doux, entre guillemets, selon l'expression de Tocqueville qui voyait disparaître la démocratie. Je vous renvoie aux lectures de Tocqueville qui a écrit tout cela il y a très longtemps et qui devient de plus en plus actuel, comme quoi le passé peut éclairer le présent et l'avenir. Voilà, nous sommes arrivés presque au bout, tiens, plus sur un registre un peu plus léger. Je vous indique que les vendredis 15 et 16 avril, Pahamat et Bernardo Sandoval, qu'on a reçu ici et que l'on apprécie particulièrement, donneront un concert à l'Écluse, qui est une nouvelle salle, Saint-Calais de Brienne, où je pense recevoir dans une émission qui va se dérouler dans pas très longtemps, dans quelques heures. Ma préférence, l'émission culturelle de la station. Je recevrai le directeur de cette salle, donc vendredi 15 et samedi 16 avril. Si vous aimez le chant et la guitare, allez écouter Pamat et Bernardo Sandoval. Voilà, c'était Economica, une émission de Anisla qui nous a, je ne sais pas si nous a fait rêver, mais nous a ouvert des horizons fort prometteurs et fort intéressants. Le tout, ce serait de les concrétiser. Mission donc de Anissa et de Jacques Lavergne. À la réalisation manette, Tiffaine Lemel, que je remercie. Le podcast de cette émission, bien sûr, vous le retrouverez avec tous ses petits frères sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Economica. Belle journée à toutes et à tous. Au revoir, Anne.
Au revoir.